Bienvenue à chacun, chacune. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans Actes au chapitre 16, le livre des Actes au chapitre 16. On a chanté juste à l'instant qu'on désire suivre Jésus. On désire marcher à sa suite. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Pour faire ça, il faut le connaître, il faut croire sa parole, il faut qu'elle touche vraiment notre cœur. Parce que vous êtes comme moi, vous avez été enfant, ou alors vous avez eu le privilège d'être parent, vous êtes grand-parent, et vous savez qu'on peut dire des choses à des enfants, ils ont très bien compris, mais ça change rien pour eux, parce qu'ils ont décidé autrement. Et c'est pas que les enfants, hein. Moi aussi, vous aussi, on a des luttes avec ça. Comment est-ce que on peut avoir un cœur qui est transformé au point qu'on va être capable, on va désirer, on va vouloir suivre le Seigneur Jésus? On vous invite à regarder un passage dans Actes, donc au chapitre 16, Book of Acts, chapter 16, and we read from verse 12 to 34. Donc c'est l'arrivée de l'Évangile en Europe. C'est aussi une bonne chose, juste ce matin, de se rappeler, on n'était pas les premiers, hein. On était de loin pas les premiers. Les Syriens, les Jordaniens, les Arabes, les Égyptiens étaient bien avant nous touchés par l'Évangile. Et c'est une grâce de Dieu que on va lire ce matin, que l'Évangile s'est pas resté dans ces régions du Moyen-Orient, mais de là, il a encore rayonné plus loin, et plus loin encore que l'Europe, jusqu'aux extrémités du monde. De sorte que ce matin, on est tous concernés par cette bonne nouvelle. Alors je lis avec vous. L'acte, chapitre 16, verset 12. C'est Luc qui est en train d'écrire et il dit: « De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Et il nous annonce le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur bien, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Et ils les ont présentés au juge en disant: « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des juifs, ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonner qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé, a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal !» Car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, il est entré précipitamment, il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, il les a fait sortir et il a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Et après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Ça ressemble à un beau roman, n'est-ce pas? C'est juste, on est captivé. Il y a telle chose qui arrive, puis rebondissement, et qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Eh bien, tout simplement, Dieu est à l'œuvre dans cette ville. Il y a quatre choses que j'aimerais partager avec vous, des versets 12 à 15, on va voir comment Dieu ouvre le cœur par et pour sa parole. Voilà comment Dieu agit. Puis 16 à 21, Dieu atteste que sa parole est la vérité. Versets 22 à 28, rien ni personne n'est hors de portée du salut de Dieu. Et enfin, versets 29 à 34, la parole de Dieu produit toujours ses fruits. Dieu est à l'œuvre dans la ville. Et s'il est à l'œuvre à Philippe, au premier siècle, Dieu ne change pas. C'est la même manière dont il désire être à l'œuvre, aujourd'hui même, à Cavaillon et dans la région. Si vous regardez un petit peu aux alentours, se concentrer un peu sur Dieu qui ouvre le cœur par sa parole, on voit que le verset 12 nous indique que Paul, Silas, Timothée et Luc, donc, qui étaient jusque-là en Turquie, qui essayaient d'annoncer l'évangile dans la Turquie de l'époque, se sont vus dirigés par le Seigneur pour passer de l'autre côté, donc du Bosphore, là, et arriver en Europe. Et donc, ils suivent cette direction de Dieu, et ils arrivent à Philippe, qui est une ville romaine, non pas une ville grecque, bien que ça se situe dans ce territoire-là, mais une colonie romaine. Vous voyez ça au verset 21. Et ils passent quelques jours dans cette ville. Donc, on voit déjà Dieu qui organise les circonstances pour amener Paul et toute son équipe dans la ville de Philippe. Et dans cette ville, la Bible nous parle d'une dame, une femme. On connaît même son prénom, Lydie. N'est-ce pas magnifique de voir des prénoms inscrits dans la Bible? C'est pas une femme, c'est pas madame une telle, c'est Lydie. C'est assez intime, n'est-ce pas, quand on utilise le prénom de quelqu'un. Et Lydie, elle a non seulement son nom dans la Bible, mais un jour on va la voir au ciel. Ah, c'est toi, cette Lydie-là, qui était au bord de la rivière quand Paul est arrivé et qu'il a annoncé l'évangile. Mais elle a aussi son nom dans le livre de vie au ciel. Et on va voir comment ça se fait. Mais juste un petit encouragement pour toi ce matin. Dieu cherche chacun individuellement. Cherche pas juste des femmes comme ça et des hommes comme ça. Il cherche Paul, Pierre, Janine, Marie, Sylvie, toutes sortes de personnes, et il connaît chacun personnellement. Et voyez, Lydie, elle est aussi assez loin de chez elle. C'était une marchande de pourpre, donc elle vendait cette fameuse couleur rouge qu'on fabrique, je crois, avec des coquillages. Elle avait un petit business à elle, mais c'est pas sa ville d'origine. Elle est à Lydie pour diverses raisons, on connaît pas. Peut-être le travail, peut-être d'autres circonstances l'ont amenée dans cette ville. Elle est loin de sa terre natale. Sa terre natale, c'est Thyatire. Et on a une autre indication encore. Elle est pieuse, cette femme. On la voit en train de prier avec d'autres femmes à l'extérieur de la ville, en train de craindre Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, et qu'on va voir un peu plus loin dans le passage, on l'a déjà vu, c'est pas forcément bien vu à Philippe de croire en Yahweh. Elle craint Dieu. C'est-à-dire, elle sait qu'il y a quelqu'un là-haut. Elle sait qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Elle lui parle, elle prie. Mais elle n'a pas encore entendu la bonne nouvelle. Elle n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et voyez, Paul, Silas, Timothée, Luc, loin de chez eux, Dieu a organisé les circonstances, il les amène à Philippe, et Lydie, loin de chez elle, et Dieu a organisé les circonstances pour qu'elle soit là. Près de la rivière, et voilà Paul qui arrive, et qui se met à parler. De quoi est-ce qu'un apôtre peut bien parler ? Il parle de l'évangile, bien sûr. Comme Jésus, on l'a vu avec la femme samaritaine, par exemple, dans l'évangile de Jean. Jésus, partout où il allait, qu'est-ce qu'il parle ? Il parle de la parole de Dieu, il parle de ce qui compte vraiment dans la vie. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu ? Comment est-ce qu'on peut être connecté avec Dieu ? Et puisque Jésus a appelé Paul et l'a envoyé comme son ambassadeur, Paul fait la même chose. Il parle de cette bonne nouvelle de l'évangile. Et plus tard dans sa vie, Paul même va aller jusqu'à parler à Timothée, qui fait partie du voyage, en lui disant, parle aussi toi de cette bonne nouvelle, fais l'œuvre d'un évangéliste, insiste en toute occasion, favorable ou non. Expose la parole, Timothée. Prêche la parole. Est-ce que vous entendez aussi cet appel ? Si vous avez reçu cette bonne nouvelle, pourquoi la garder pour vous ? Mais non, partageons-la, frères et sœurs, avec ceux autour de nous qui ont besoin d'entendre. Et peut-être, cette semaine, Dieu est en train d'organiser tout un tas de circonstances pour te mettre à côté d'une personne, et de plusieurs personnes, qui ont besoin d'entendre aussi l'évangile. Et voyez, Lydie, elle écoute cette parole de Dieu. Elle a certainement lu déjà la parole de Dieu. Dans un sens, elle a déjà entendu pas mal de paroles de Dieu. Mais maintenant, elle a la clé qui lui permet de comprendre tout l'Ancien Testament qu'elle a déjà dû parcourir. Et Paul vient avec l'Évangile, la bonne nouvelle de la venue de Jésus, celui qui a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre, et qui a accepté de prendre sur lui la punition qui devait tomber sur nous à cause de nos fautes, de nos transgressions, qui est mort sur la croix pour nous épargner à nous cette mort, cette séparation éternelle avec Dieu. Et nous permet d'être réconciliés avec le Père. Paul expose cette bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle, la parole de Dieu est fidèlement exposée, c'est comme si Dieu lui-même est en train de parler. Et voyez, on voit ça clairement au verset 14. Elle nous écoutait. Mais qui c'est qui est vraiment à l'œuvre ici ? C'est le Seigneur. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là pour que ça ait du sens, pour que cette parole, non pas comme nous, dont on n'a pas envie d'entendre, non pas comme les petits enfants qui restent figés dans leur volonté, mais pour qu'elle touche vraiment le cœur et qu'on se dise, là, il y a quelque chose. Là, il faut que je suive cette parole. Là, il y a une vérité. Je ne peux pas me dérober, je ne peux pas contourner. Vous voyez, craindre Dieu, c'est une chose, mais le connaître et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, en est une autre. On ne peut pas adorer véritablement Dieu sans comprendre qui est Jésus et le sens de la croix. C'est un peu comme ce moulin à papier à Fontaine de Vaucluse. Je ne sais pas si vous êtes déjà été vous balader là-bas. Alors, il y a le gouffre, il y a cette rivière qui sort apparemment de nulle part et puis qui coule. Et si vous êtes un petit peu plus bas, en contrebas, il y a une sorte de grande roue de moulin qui tourne poussée par la puissance de l'eau, n'est-ce pas ? Et puis derrière, il y a une fabrique à papier. On peut la visiter. Et donc, il y a des marteaux qui sont entraînés par une sorte d'essieu, un axe, lui-même entraîné par donc, cette roue poussée par la force de l'eau. Tout est en place pour pouvoir fabriquer du papier, pour pouvoir déchiqueter tous ces tissus puis les compresser après pour faire du papier. Pourtant, vous pouvez peut-être aller à Fontaine de Vaucluse et tout est immobile. Tout est silencieux. Tout est en place, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, parce qu'il y a une pièce importante. Il y a une sorte de grosse courroie qui fait la jonction entre cette roue qui tourne avec l'eau et puis cet essieu, cet axe qui entraîne les marteaux. Dieu est plus qu'une courroie. Mais un peu la même chose, s'il n'intervient pas, on peut entendre, et ça ne change rien à l'intérieur. Ça n'atteint pas le cœur, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, sans atteindre le vrai nous, notre vrai être intérieur. Et ces passages nous annoncent donc que ce n'est pas Dieu qui fait 50% du boulot, et qui a à nous de faire les 50% autres, c'est de rejoindre. Non, Dieu fait tout. Et donc, puisque c'est lui qui fait tout, la grande question ce matin, c'est est-ce que vous désirez entendre sa parole? Puisque c'est lui qui est capable de la faire pénétrer jusqu'au très fond de l'âme, est-ce que tu désires ça? Est-ce que tu viens à Dieu en disant « Seigneur, parle-moi, ne me laisse pas sans cette courroie, ne me laisse pas dans les ténèbres. » Est-ce que vous réalisez votre besoin d'une opération à cœur ouvert? Et Dieu est un bon chirurgien. Il sait faire en toute sécurité. Demandez à Dieu. Approchez-vous de lui, puisque c'est lui qui peut parler. Et demandez-lui de manifester sa compassion envers vous. Quand Dieu fait ça, il y a plusieurs expériences que vous allez faire. Il y aura une joie intense. Parce que nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur. Et vivre sans cette connexion-là, ça nous attriste, ça nous lasse. Et peut-être vous en rendez pas compte, mais le jour où vous allez goûter à cette connexion-là, vous allez expérimenter une joie intense. C'est une expérience de joie intense, mais d'humiliation aussi intense, de tristesse. Parce que quand Dieu parle, il révèle réellement l'état de notre cœur. Et parfois c'est bien sombre et bien simple. Une expérience de joie intense, une expérience de tristesse, d'humiliation intense. Et une expérience d'espérance intense. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas juste pour montrer le problème, mais aussi pour montrer la solution, la grâce. Le Christ m'a aimé. Il a payé pour me libérer du péché et de la mort. Dieu prend l'initiative. Vous voyez ça avec Lydie. La conversion, c'est une question de cœur, de tripes, c'est pas qu'une question intellectuelle. Il ne fait pas que toucher, frôler le cœur, il l'ouvre carrément pour venir y mettre sa vie. Et on voit chez Lydie, il y a un grand changement, et on va revenir sur ces changements que produit la vie de Jésus pour nous. Si c'est le cas pour une conversion, plus un dernier mot à propos de Lydie, si c'est bien Dieu qui doit nous rendre attentifs, si c'est bien Dieu qui ouvre les cœurs. Si c'est le cas pour une conversion, c'est aussi vrai pour notre sanctification, pour notre marche encore, jour après jour avec Dieu. Nous avons besoin encore que lui fasse cette œuvre-là pour ouvrir notre cœur, nos intentions. Dieu ouvre les cœurs par et pour sa parole. Et sa parole est la vérité. Vous voyez ça au verset 16 et 18. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a cette histoire avec la jeune fille esclave? C'est pas clairement une question de conversion, il y a une libération certainement pour cette fille d'un esprit qui était mauvais, malsain pour elle. On lit ça, vous avez vu avec moi, au verset 16, elle avait un esprit de divination, et puis... Voilà, et un peu plus loin, donc Paul dit, il se tourne et il dit à l'esprit, au verset 18, qui en est, un esprit de confusion, un esprit mauvais. Et des maîtres exploitent cette jeune fille pour retirer des grands revenus. Dans un sens, on voit que tout n'est pas rose à Philippe. Génial pour Lydie, mais le mal est aussi à l'œuvre. Et il essaye de semer le doute, la confusion, jusqu'à ce que Paul délivre la jeune esclave. Cette jeune esclave, c'est bizarre, j'étais en train de réfléchir à tout ça, parce qu'elle dit des choses qui sont vraies. Elle s'est mise à nous suivre en criant à propos de Paul, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Oui, c'est vrai. Et ils nous annoncent le chemin du salut. Oui, tout à fait. Ils annoncent l'évangile. Ils annoncent le seul chemin du salut. Et c'est ça, je pense, qui nous met sur la piste. Parce que elle ne fait pas que dire ça. À la fin du verset 16, on voit qu'elle dit toutes sortes de prédictions. Elle dit toutes sortes de paroles. Il y a des paroles qui sont vraies, celles qu'elle est en train de dire ici, mais il y a aussi tout un tas de mensonges. Et on voit la puissance de la parole de Dieu face à l'opposition. Les démons, ils connaissent aussi l'identité de Christ. Mais ce n'est pas leur rôle d'annoncer la bonne nouvelle. On voit ça dans les évangiles. Jésus ferme leur bouche, parce que ce n'est pas à eux d'annoncer qui il est. C'est un honneur qui est donné seulement aux enfants de Dieu. Et voyez, la parole de Dieu est la plus forte. Elle est pour le bien. Elle est gratuite. Dieu l'a dit par amour et non pour un intérêt mercantile, non pour se servir lui-même. S'il ne la disait pas, on serait tous foutus. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, une bonne parole qui est vraiment tournée pour le bien de ces créatures. Et tous ceux qui sont les serviteurs alors, de cette parole doivent faire la même chose. Et je crois que cet épisode se trouve là pour dire, ben, ouais, c'est bien pour Lydie, elle croit cette parole, mais vous savez, c'est pas pour moi. Moi, j'ai une autre vision des choses. Voilà, j'ai une autre vérité. Si tu crois, tant mieux pour toi. Moi, je crois autre chose. On entend beaucoup ça, c'est un peu ce qui se passe dans notre société actuelle. Mais nous voyons ici que la parole de Dieu n'est pas une prédiction comme une autre. Elle n'est pas au même rang. C'est la vérité, la seule authentique, la seule par laquelle nous devons vivre. Et donc Paul chasse cet esprit pour qu'il devienne bien clair et net, qu'il y ait une distinction entre l'évangile et toutes sortes d'autres messages qui sont dans le monde. Du coup, ça met les propriétaires de cet esclave en fureur, vous voyez ça? Eh oui, plus personne vient les voir. C'est quoi ce message si distinct, si différent de tout ce qu'on a entendu? Souvent, les prêtresses ou les divinatrices de l'époque, au 1er siècle, entraient dans des sortes de transe, ensuite elles faisaient des sortes de poèmes, mais totalement abstrait, impossible de savoir clairement qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, c'était laissé à l'interprétation de celui qui repartait, de dire, un peu comme l'horoscope, vous pouvez lire l'horoscope et vous pouvez l'appliquer à toutes sortes de situations. C'est un mensonge. N'importe qui peut pondre ces âneries-là et n'importe qui peut y croire dans un sens. Là, maintenant, les gens de Philippe sont en train d'entendre un message clair, distinct. Et ça met en fureur les propriétaires. Ils accusent Paul de semer le trouble. Et voyez comme c'est bizarre. Ceux-là même qui accusent les autres de semer le trouble, c'est eux-mêmes qui, en fait, sont en train de faire monter la sauce, de créer des problèmes à des gens qui étaient tranquillement en train d'annoncer la vérité. C'est l'intolérance de la tolérance. Quand les sentiments et les intérêts sont plus importants que la vérité. C'est une vraie question de nos sociétés aussi. Vous voyez, ce message, il a une telle radicalité qu'il remet en cause le fonctionnement de beaucoup dans cet empire romain, dans cette société. La reconnaissance de Jésus comme seul Seigneur, la reconnaissance de son péché, du jugement qui vient, du pardon uniquement obtenu par le sacrifice de Jésus, par la croix, et non selon nos propres mérites. Tout cela est révolutionnaire. L'apôtre Jean nous dit « La parole est venue dans le monde, ceux qui ne croient pas sont déjà jugés, et ceux qui croient ont la vie éternelle. » On continue alors, et on découvre qu'en effet, il y en a d'autres qui croient. Et même en prison, même parmi des gens, on n'aurait pas donné un copec pour leur vie, il y a aussi une occasion pour l'évangile, il y a aussi une occasion pour Dieu d'être à l'œuvre. Dieu œuvre depuis le début de ce passage jusqu'à la fin pour sauver les gens. Ça peut être en coulisses, discrètement, prévu de longue date, comme pour Lydie, et puis, qui est là depuis quelques années à Philippe, loin de sa terre natale, ou ça peut être avec des grands moyens. Et voyez ici, Paul et Silas sont pris par la foule, roués de coups. Il faut qu'on pèse quand même ça. De nos jours, ça nous semble tellement loin. On est dans un état de droit, il y a des lois qui protègent la liberté, etc. Ils sont roués de coups, ils sont jetés en prison, à la prison intérieure, des entraves aux pieds. Et c'est juste de quelques secondes pour figurer qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance que ça peut causer. Mais Paul et Silas ne se rebellent pas. Ils auraient pu brandir leur citoyenneté romaine en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous pouvez lire ça plus loin dans la fin du passage, dans le verset 40. » Mais ils préfèrent accepter ces circonstances comme venant de Dieu et comme étant une occasion d'annoncer l'Évangile. Ils demeurent fermes dans leur confiance à Dieu. Les circonstances peuvent être douloureuses ou non, mais une chose est sûre, on va annoncer l'Évangile. Et voyez, les criminels et les prisonniers, c'est pas ce qu'on pense, hein. Parce qu'en fait, Dieu montre de la compassion pour des gens qui sont au fin fond de la prison, alors que d'autres qui étaient à l'extérieur de la prison ont rejeté la bonne nouvelle de la réconciliation avec le Père. Les pires criminels, alors, peuvent aussi recevoir l'Évangile. Paul nous l'a rappelé, c'est pas une question de mérite personnel, c'est pas une question d'amélioration personnelle, c'est pas une question d'avoir à peu près tenu bon dans la moralité, dans notre vie. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous condamnés. D'une manière ou d'une autre, nous avons désobéi au commandement de Dieu. Et ça, c'est pas la fin pour Dieu. Dieu est prêt à aller chercher des gens durs, loin de lui. Il n'y a pas une question de ce qu'on a fait de pire qui serait impardonnable, que Dieu, qui nous mettrait en dehors du portée du salut de Dieu. Alors les gens à l'extérieur de la prison ont rejeté l'Évangile, mais ceux à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent Paul et Silas en train de chanter le nom de Dieu, en train de répandre leur cœur avec joie dans ces circonstances-là, en train de se réjouir dans des circonstances adverses du salut en Jésus. Et ça touche les prisonniers. Vous voyez, il y a le même processus, un petit indice à la fin du verset 25, et les prisonniers les écoutaient. Ils ne sont pas dit, c'est qui c'est Barjo, c'est qui ces gens-là. Ils écoutaient, tout comme Lydie a écouté. Et je pense Dieu aussi a été à l'œuvre pour ouvrir leur cœur à ces gens durs. Et comment je le sais? Parce que Dieu utilise des grands moyens. Tremblement de terre. Soudain, les portes de la prison s'ouvrent, les entraves sont ouvertes, tout est fait pour que les prisonniers s'échappent. Il y a Gaius, le meurtrier. Sa condamnation à mort est déjà programmée. Il est dans le couloir de la mort, il attend quelques mois et puis il va y passer. Mais il ne prend pas ses jambes à son cou, il reste là. Lucius, qui est condamné à des années de prison pour tous ses vols répétés. Il ne s'enfuit pas, il reste. Ils restent tous dans la prison. Pourquoi? C'est le signe qu'ils ont compris l'Évangile. Ils sont pardonnés par Dieu. Leur vie terrestre, ils ont compris, est passagère. Ils ont reçu le ciel. Tu peux faire ce que tu veux avec ma vie ici, maintenant. J'appartiens à Dieu. Je suis réconcilié avec le juge suprême. Lui a déclaré que je suis innocent. Non pas parce que je pouvais expier ma faute, parce que je pouvais rembourser ma dette, parce que quelqu'un l'a fait à ma place. Jésus-Christ. Ça a dû les chambouler de voir un citoyen romain comme Paul, qui renonce à ses droits pour la cause de l'Évangile, qui se laisse enfermer, qui, au milieu de la nuit, chante à ce Dieu. Les innocents qui se laissent arrêter pour la cause de Jésus, qui suivent les traces de leur maître de façon aussi cohérente. Un message et une vie en face qui sont cohérentes. Ça a dû parler énormément. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas un encouragement pour nous ce matin? Je ne sais pas où est-ce que toi tu en es. Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent pouvoir faire obstacle à ta communion avec Dieu? Mais prends un encouragement. Dieu a été chercher même des prisonniers au fin fond d'une prison à Philippe pour les sauver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau, écoute la bonne nouvelle de l'Évangile. Et prie Dieu qu'il ouvre ton cœur. Il y en a un autre qui n'en est pas revenu. Il n'a pas cru ses yeux. Le brave geôlier. Le brave geôlier, il demande une lampe torche. Et je ne sais pas si vous figurez la scène, il descend au fin fond du cachot, avec la lumière un peu tremblotante, il voit le visage de Gaius, assis tranquillement sur son banc, le visage de Lucius, Paul, Silas, ils sont tous là. Lui aussi, il habite dans la prison. Il a entendu, sans doute, les louanges de Paul. Il a bien entendu tout le ramdam que ça a fait dans la ville. Il était bien au courant du message annoncé par Paul et Silas. Et lui aussi, alors, dans toutes ces circonstances, et Dieu, il ne va pas par le dos de la cuillère, peu importe, il met tous les moyens qu'il faut, un tremblement de terre si c'est nécessaire, mais ce geôlier-là, il le veut pour lui, comme son fils, par adoption. Toujours on voit Dieu comme un maître souverain en train de conduire les circonstances pour le salut. Et lui aussi comprend, si ces gars-là restent là, s'ils ont trouvé la paix dans leur cœur, c'est que ce message est tout à fait vrai. Et alors il s'écrit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondent, crois. Il n'y a pas des choses compliquées. Il n'a pas dit, il faut faire 10 000 prières et aller à tel endroit et je ne sais pas quoi d'autre encore, toutes sortes de rites à accomplir. Il n'y a rien à faire, il faut croire que Dieu a fait, que Dieu a donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et de nouveau, Paul est en train d'annoncer la parole du Seigneur. Vous voyez l'importance de cette annonce? Tout partout dans ce passage, il faut que la parole soit proclamée. Et quand la parole est proclamée, alors Dieu s'en sert pour ouvrir les cœurs des uns aux autres. Et ici, c'est non seulement le geôlier, mais il rassemble toute sa maison. Tous sont en train d'écouter cette bonne nouvelle. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour te sauver, qui a de la valeur. Et beaucoup, cette nuit-là, sont nés nouveaux, sont été réconciliés avec Dieu. On le voit au verset 33, il a été immédiatement baptisé. Ce baptême, c'est le signe, comme pour Lydie, de cet engagement, de cette foi qu'on met en Jésus-Christ et non plus en nous-mêmes. Et c'est la pratique biblique, et que nous voulons perpétuer aussi, de baptiser par immersion. De savoir qu'on meurt à son ancienne vie, on est complètement recouvert par l'eau. La vie qu'on menait avant, elle était condamnée, condamnable. Elle a été ensevelie avec Christ dans sa mort. Et puis quand on ressort de l'eau, c'est le symbole de cette vie nouvelle. La vie qui vient maintenant de Christ, avec la justice que Christ nous a acquise, qui nous permettra de tenir un jour devant Dieu. Ce geôlier, Lydie, a été baptisé, lui, tous les siens. Tous ceux qui ont cru ont été baptisés ainsi. Et voyez, la parole de Dieu produit toujours ses fruits. Dans cet engagement-là, on voit un de ces fruits-là. Parce que cette parole, elle n'est pas justement rentrée d'un côté et sortie de l'autre, elle a touché profondément cet homme. Il est prêt à engager maintenant toute sa vie. Il le manifeste par son baptême, mais aussi en accueillant chez lui Paul, Silas, ceux qui étaient avant pour lui des moins que rien, des prisonniers qu'il fallait mettre dans les entraves. Maintenant, ce sont ses frères, ses sœurs. Et il y a une toute nouvelle perspective maintenant, une toute nouvelle famille pour lui. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus sont unis dans cette même famille, dans ces mêmes liens d'amour. Et il prend soin d'eux, il lave leurs plaies, il leur sert à manger. Et voyez, Lydie, elle a fait la même chose. Si vous me jugez fidèle, verset 15, juste pour revenir avant l'arrière, entrez dans ma maison et logez-y. Des gens qu'elle connaissait, ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit sur l'expression, d'un coup deviennent précieux pour elle. Venez, restez avec moi. Et c'est non seulement la conversion, non seulement un engagement qui est pris par Lydie, par le geôlier, c'est non seulement la communion fraternelle qui commence à rassembler tous ceux qui croient, mais c'est aussi un désir de voir l'évangile progresser. Quand Lydie, elle accueille Paul et Silas et toute leur équipe chez elle, elle est en train de mettre ses biens au service de l'évangile. Elle permet à l'évangile d'être entendu encore davantage, plusieurs jours encore, à Philippe. Sinon, Paul et Silas n'avaient pas les moyens, ils auraient dû retrouver du travail, etc. Ils n'avaient pas moins de temps pour faire l'œuvre de Dieu. Donc elle a fortement insisté. Ils ont accepté. Et pendant plusieurs jours, alors, l'évangile a encore continué à être proclamé à Philippe. Pareil pour le geôlier, il est conduit chez lui et il permet de reprendre des forces. Pourquoi ? C'est pas juste la compassion humaine, mais il a en vue la progression de l'évangile. Donc je voudrais vous encourager. C'était vraiment mon but ce matin. Alors qu'on est en train de devrait ici, à Carillon, alors que nous voulons être, pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, nous voulons être aussi des ambassadeurs de Christ ici, dans cette ville. Nous voulons être aussi de ceux qui partagent cette bonne nouvelle. Nous désirons voir Dieu ouvrir les cœurs. Et c'est exactement ça que Dieu fait, partout dans le livre des Actes. Il n'y a pas de raison que Dieu change. Alors, je vous invite à mettre votre confiance dans Dieu qui organise les circonstances. Et soyez attentifs cette semaine. Qui se trouve à côté de vous? Un collègue, peut-être à la pause de midi, pendant que vous faites une partie de foot, je ne sais pas quoi, un voisin, un ami. Peut-être que ce sera par un coup de fil, peut-être pas en présence. Vous êtes des ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Annoncez-la. Que l'occasion soit favorable ou non, parce que quand la parole est annoncée, Dieu peut rendre quelqu'un attentif et ouvrir son cœur. C'est ce que nous désirons voir, n'est-ce pas, des personnes sauvées, réconciliées avec Dieu. Et non seulement cet évangile est capable d'ouvrir le cœur, mais il transforme la vie. C'est ce même évangile qu'on a besoin de se rappeler aussi cette semaine pour vivre les fruits de cet évangile. La communion fraternelle, le désir de voir l'évangile progresser, et l'engagement avec le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu éclaire ceux et celles qui, ce matin, ont encore besoin de comprendre cet évangile. Je vous invite à prier simplement. Seigneur, c'est ta parole que nous avons lue. C'est ta parole que nous désirons entendre résonner au très fond de nous-mêmes. Et je prie, Seigneur, que tu fasses ton œuvre comme tu l'as fait à Philippe dans cet épisode qu'on a vu. Que plusieurs ici, moi-même, nous tous, dans les différents stades où nous en sommes dans notre chemin, nous soyons fortifié dans notre résolution de te suivre, de marcher à ta suite. Je prie que, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et voir comme jamais auparavant qui ils sont devant toi, leur besoin d'un sauveur. Je te demande aussi qu'ils puissent voir clairement la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je t'en prie. Amen.